Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'un dimanche riche en émotions sportives. Le 15 de France a gagné contre la Géorgie 41-15, mais n'a pas chassé tous les doutes avant d'affronter la Nouvelle-Zélande samedi prochain. Qui est le plus grand joueur de tennis entre Djokovic, Nadal et Federer? Eh bien, c'est le thème du baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL. La semaine prochaine, à Dubaï, ont lieu les mondiaux de karaté. Le champion olympique Steven Dacosta sera avec nous. Entretien sans langue de bois. Pour m'accompagner, comme chaque dimanche, Benoît Lallemand, le boss du service des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Federer.
Ah, vous votez Federer.
Évidemment.
On va en parler dans un instant. Benoît, un dimanche marqué également par les adieux à la compétition d'un grand monsieur, non pas par la taille mais par le talent. Quentin Vasselin, bonsoir, je parle pas de vous. Hein.
Bonsoir Isabelle, ah bon?
Je parle bien sûr de Valentino Rossi qui a disputé à Valence le dernier Grand Prix moto de sa carrière.
Oui, à 42 ans, il a été célébré par le paddock et par une marée de fans, tous vêtus de jaune, la couleur fétiche du docteur. 25 ans, 7 mois et 14 jours après sa première course, voilà, j'avais 5 ans. C'était le 31 mars 1996, 9 titres mondiaux, 115 victoires, 235 podiums, toutes catégories confondues. En MotoGP, la catégorie reine, c'est 6 titres, 89 victoires, 199 podiums et 55 pole positions. Chapeau l'artiste.
Ciao à tous, un grand abbraccio da Valentino, ciao.
Ciao, ciao Valentino. Il était temps que la saison se termine aussi pour Fabio Quartararo.
Oui, car c'est Francesco Bagnaia, le dauphin de Quartararo, qui remporte le dernier Grand Prix de la saison à Valence. Fabio Quartararo, le champion du monde malgré tout, termine 5e, juste devant Johan Zarco, le canois, qui termine cette année à la 5e place du général. C'est le premier pilote indépendant, mais beaucoup de frustration tout de même pour Johan Zarco.
Sur un côté français, un champion du monde cette année, et moi 5e, c'est ma meilleure saison en MotoGP. Donc clairement c'est positif, mais quand il y a un potentiel à faire beaucoup mieux, c'est pour ça que tout le monde est frustré.
Et on retrouve tout ce petit monde de la moto en mars 2022.
La Formule 1 avec le Grand Prix de Sao Paulo, on sera avec Frédéric Veil dans quelques minutes.
Ouais, c'est du direct, là il reste deux tours dans le Grand Prix de Sao Paulo au Brésil et c'est Lewis Hamilton qui mène devant Verstappen, il vient de le doubler, hein. Il y a 8 tours et l'anglais vient de doubler le hollandais, ce qui fait qu'au classement il se rapproche, Lewis Hamilton, de Max Verstappen. On y revient avec notre spécialiste F1 dans quelques minutes à l'issue de ce Grand Prix.
L'équipe de France féminine de basket a gagné son premier match de l'ère Toupane, le nouveau sélectionneur.
Oui, qualification pour l'Euro féminin 2023, les Bleus écrasent la Lituanie 83-56, trois jours après une défaite un petit peu humiliante en Ukraine. Les Bleus se relancent. Sur la Transat, Jacques Vabre, Franck Camas et Charles Caudrelier sont largement en tête à bord du Maxi Edmond de Rothschild. Ils sont au large actuellement du Brésil après une semaine de course en catamaran. C'est pas mal, ça va vite quand même tout ça. Puis un petit mot de football, qualification de la Coupe du Monde 2022. La Croatie ira au Qatar, victoire 1-0 face à la Russie au bout du suspense à 10 minutes de la fin. Kudryashov, le malheureux, marque un but contre son camp qui prive la Russie du mondial qatari. Les Russes devront passer par le barrage. Chez les filles, match très attendu ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Première sortie des joueuses de la capitale depuis le début de l'affaire Amraoui. La Parisienne agressée la semaine dernière, suivie de la garde à vue de sa coéquipière Aminata Diallo pendant 48 heures, même si cette dernière risque d'être peut-être innocentée. On verra bien la fin de ce dossier. Mais coup d'envoi de cette rencontre à 21h, rencontre qui n'a pas été annulé ou reporté.
Et à 20h, vous retrouverez les copains de RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi, avec notamment un entretien en longueur de Didier Deschamps réalisé par Philippe Sansfourche pour RTL et M6.
Isabelle Langer.
On refait le sport sur RTL
avec Le Parisien aujourd'hui en France.
À Bordeaux cet après-midi, le 15 de France a disputé son deuxième test match de l'automne. Les Bleus ont largement battu la Géorgie 41-15. Bonsoir Denis Grandjou, vous étiez au Matmut Atlantique.
Oui. Oui, c'est ça, au Matmut Atlantique, qui était, alors ça fait plaisir pour un Bordelais que je suis, parce qu'on n'est pas habitué, ça fait mal aux yeux de voir un stade plein. C'était magnifique, il y avait 40 000 personnes à peu près, enfin 39 000 et quelques poussières. Grosse, grosse ambiance, c'était vraiment magnifique.
Une victoire tranquille pour les Français, 41-15.
Oui, alors il y a eu, c'est vrai, 6 essais marqués par les Français, il y a eu deux doublés, hein. Il y a eu Damien Penaud et Vivien Vouka aussi. Donc on se dit que c'est pas mal le score, vous l'avez dit, mais en même temps, l'ambiance dans le stade était vraiment intermittente, c'est-à-dire que c'était à l'image de cette équipe. Il n'y a pas vraiment eu d'enflammade, entre guillemets, c'était pas non plus la folie, mais c'était sympa. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de certitudes, parce que la Géorgie, c'est pas non plus, c'est pas les Blacks, quoi. Donc c'est une équipe qui, même si elle est, c'est une bonne équipe, mais enfin, c'est pas forcément au même niveau que les l'équipe de France. Donc c'était voilà, mi-figue, mi-raisin. Puis il y a une grosse averse à la fin. Ça fait plaisir à Fabien Galthié parce qu'il s'est dit, comme il va pleuvoir peut-être contre les Blacks, ça nous prépare à ce choc contre la Nouvelle-Zélande.
Un succès populaire, Jean-Michel Rascol, vous êtes notre spécialiste rugby, mais un spectacle qui n'a pas tout à fait quand même convaincu.
La puissance française a fait la différence face à l'indiscipline géorgienne. Il y a eu aussi des cartons jaunes dans ce match. La copie n'est pas parfaite, c'est d'ailleurs l'avis avec un peu de recul d'Antoine Dupont. Même si à chaud, en sortant du terrain, le jeune capitaine était plutôt satisfait.
Le résultat, c'est sûr qu'il est, il est plus que satisfaisant. Voilà, on gagne de 40 points. Évidemment, la copie n'est pas parfaite. Mais on a fait un match sérieux. On a su prendre le score dès le début. Même si on a passé beaucoup de temps dans leur camp à ne pas arriver à marquer, voilà, on n'était jamais en difficulté. Et ça peut être que bénéfique pour le groupe et pour la suite.
Voilà un match encourageant face à l'Argentine. Un match de réglage cet après-midi avant le grand défi dans 6 jours face au All Black. Fabien Galthié, il ne freine pas des deux pieds, mais il essaye d'éviter l'emballement.
La dernière fois qu'on a battu les All Blacks au mois de novembre, c'était au début des années 2000. Voilà. Donc, j'ai envie de dire aux joueurs, il y a tout à gagner. Tout à gagner dans ce joli défi.
C'est ce qu'on appelle de l'enthousiasme.
Ils vous ont convaincu, ces Bleus, cet après-midi, Benoît Lallemand ?
Non, on ne peut pas dire qu'ils nous ont convaincus. C'est des Bleus qu'on a envie de voir, de revoir. C'est des Bleus aussi, qu'on a envie de voir face aux All Blacks. Les Irlandais ont battu les Blacks samedi. Il y a du talent, c'est indéniable. Il y a de la jeunesse, du talent. Ils ont un coach qui les cadre bien. Maintenant, il faut les mettre face à des gros défis. Et puis, face au défi du jeu, peut-être, ce qu'il a manqué contre l'Argentine et face à la Géorgie.
Alors, les Blacks ont été battus ce week-end en Irlande au terme d'un match incroyable, 29-20. Pensez qu'en première mi-temps, les Néo-Zélandais, balle en main, n'ont passé que 6 secondes dans les 22 mètres de l'équipe du trèfle. Incroyable.
Ce sera en plus un match important, Jean-Michel, vous me le disiez tout à l'heure, parce que c'est le dernier duel contre les Blacks avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde.
Oui, alors on ne connaît pas exactement la composition des prochaines tournées, mais on peut imaginer que c'est vraiment le match de la répétition générale avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Vous savez qu'il y avait eu un petit débat, savoir s'il fallait prendre les Blacks au début de la Coupe du Monde ou un peu après. Bah, le mieux, c'est de les prendre deux fois, le premier jour et le dernier jour.
Oui, et qu'est-ce que vous attendez, Jean-Michel, de cette rencontre ?
Alors, moi, ce match des Blacks, on est en novembre. Hein, comme le disait Galthié, on n'a pas battu pratiquement depuis les années 2000 les Blacks à Paris au mois de novembre. On les a battus au mois d'octobre en 2007, mais c'était en Coupe du Monde. Bref, ce sont des détails, mais j'attends surtout que cette équipe de France, elle prolonge l'enthousiasme qu'elle a elle-même fait naître. Même si cet enthousiasme, on ne le sent pas dans les propos de Galthié, on l'espère en tout cas dans le jeu, parce qu'il y a énormément de talent. Hein, on a vu Melvin Jaminet, par exemple, l'arrière buteur. C'est aujourd'hui pratiquement le meilleur buteur du monde, puisqu'il réussit pratiquement toutes ses tentatives, même s'il en a raté une cet après-midi. À l'aile, il y a beaucoup de choses. Dupont est formidable. Reste à trouver un 5-2 devant qui met la marche en avant, comme l'ont fait les Irlandais face aux Blacks, pour que cette fois, eh bien, peut-être l'histoire puisse s'écrire en faveur de ce 15 de France.
Et est-ce que la charnière ou la double charnière Dupont-Jalibert Ntamack finissent de nous convaincre, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas?
Alors c'est une expérience, comme dit Galthié, les expériences, il faut les renouveler pour qu'elles puissent s'installer. Cet après-midi, je n'ai pas été non plus totalement séduit par cette association des deux numéros 10 qui jouent ouvreur là et premier centre, hein, Ntamack premier centre et bien sûr Mathieu Jalibert au poste de demi-ouverture. Il y a eu des fulgurances de Ntamack dans la défense géorgienne et il y a eu de très belles choses aussi de Jalibert qui a marqué un très bel essai.
Jean-Michel, elle en est où cette équipe des Blacks par rapport à ce monstre que vous connaissez depuis que vous analysez le rugby pour RTL? Alors, ça vaut quoi aujourd'hui?
C'est une équipe d'automne. Quand on les bat, c'est souvent en automne parce que c'est la fin de leur saison. Ils ont joué le championnat de l'hémisphère sud. Hier, ils ont eu, vous avez la stat, très très peu de ballons, mais ils ont marqué des essais fantastiques. Il y a eu un essai refusé qui est sans doute la bascule dans ce match, mais sur 3 passes, 3 accélérations, ils vont dans l'embut. Et ça reste la marque des Blacks. Hein. Vous le savez, ils portent le deuil de leurs adversaires. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils ne le portent pas samedi prochain à partir de 21h. Mais dans la gestuelle, ça reste de toute façon ce qu'on fait de mieux au monde.
Alors, ce que j'ai envie de vous faire quand même entendre, c'est Fabien Galthié qui s'est un petit peu distingué encore en conférence de presse.
Ça c'est joli, oui.
C'est assez joli comme extrait. Il va falloir tendre un tout petit peu l'oreille. On est en fin de conférence de presse. Écoutez ce qu'il se dit derrière.
Voilà.
Comme la conférence de presse.
Ouais, ça a épuisé.
Merci.
Merci beaucoup.
Alors, quand Fabien Galthié dit on les a épuisés...
Il s'adresse à Dupont. Hein.
Voilà, il s'adresse à Dupont et il ne parle pas des géorgiens, hein. Il parle bien des journalistes. Voilà, il croyait que le micro était coupé. Malheureusement, il y avait du son qui traînait.
Ouais, c'est un petit jeu, Benoît. En fait, il apprécie pas comme ça ces moments d'après-match où il faut venir s'expliquer, répondre à des questions. Bon, ça fait partie du job. Toujours est-il que ce qu'il faut espérer du côté journaliste, c'est que les Blacks n'épuisent pas le 15 de France samedi prochain. Si on devait avoir une réplique par rapport à ces deux phrases.
Ouais, moi je suis un peu déçu par Galthié depuis qu'il est sélectionneur. Il connaît très bien le métier de journaliste. Il l'a même apprécié puisque
il était consultant.
Il était consultant pour France Télé, pour l'équipe.
Très
bon consultant, tout à fait. À la fois à la télévision.
Il l'a fait grandir même ce rôle. Hein.
Exactement. Donc ça lui plaisait, ça l'amusait. Il a passé une Coupe du Monde avec l'équipe dans les coulisses et il en était très intéressé. Moi je trouve que depuis qu'il est sélectionneur, il devient, pardon, un peu chiant. Je pense qu'il n'a pas du tout aimé la séquence Covid, mais par sa faute. Hein, la grande responsabilité de ce qui s'est passé pendant le Covid et de la bulle, percée, pas percée, c'est de sa faute. Voilà, maintenant, il faut qu'il assume. Il mérite mieux que ça. Il peut être bien meilleur que ces petites phrases lâchées comme ça et qui n'ont aucun sens, surtout pas à son capitaine, qui lui découvre l'exercice, hein, faut bien le reconnaître.
On sent bien qu'il
n'est pas
encore
hyper à l'aise.
L'équipe de France, elle est très appréciée par le public et lui, il est un petit peu antipathique depuis quelques mois. C'est un peu dommage.
C'est ce qu'on appelle être rancunier. Et c'est vrai que la séquence Covid-Marcoussi, il a eu du mal à la digérer.
Il est très, très rancunier, ça on le savait. C'est pas son meilleur rôle, franchement.
Allez, vous écoutez RTL, il est 19h42. Restez avec nous après la pub. Nous revenons sur la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix du Brésil.
RTL.
On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.
On refait le sport sur RTL. Avec Le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
On voulait vous mettre le God Save the Queen, on a un petit peu loupé notre truc. Mais c'est pas grave, c'était pour saluer la victoire au Grand Prix de Formule 1 de Sao Paulo de Lewis Hamilton. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Benoît.
Spécialiste bonsoir. De Formule 1, quel Grand Prix encore une fois ils nous ont réservé ces pilotes de F1?
Ouais, le palpitant, vraiment, ça y va à 200 à l'heure, hein, que ce soit du côté de chez Red Bull ou du côté de chez Mercedes. Mais là, la victoire d'Hamilton, cet après-midi, elle a été superbe. Cet après-midi au Brésil, hein, ce soir en France, évidemment. Elle a été superbe parce que Hamilton y a toujours cru, il a fait un week-end, mais de malade Hamilton. Faut pas oublier qu'il a pris quand même, si on compte bien sur tout le week-end, 25 places de pénalité. Il en a pris 20 hier sur la course au sprint, il termine, il part 20e, il termine 5e. Là, il part 10e, ça a été de la folie parce qu'il est remonté au 5e tour, il était déjà 3e, Bottas le laisse passer et il se retrouve 3e et il termine et il va attaquer Verstappen. Après il y a eu une stratégie de changement de pneus qui a été un petit peu favorable on va dire à Verstappen, mais Hamilton y a toujours cru, il est resté derrière et puis il y a eu ce 59e tour, ce fameux 59e tour et ce passage mais alors au DRS fabuleux d'Hamilton. Ah là il lui a tout fait, Hamilton qui avait déjà tenté une première fois quelques tours avant, 48e tour, les deux voitures étaient sorties de la piste. D'ailleurs, à ce propos, Verstappen a pris un petit avertissement. Il a dit on recommence pas. Mais là, sur la deuxième tentative, Hamilton était vraiment trop fort et la Mercedes était vraiment beaucoup plus rapide aujourd'hui. Ce qui fait que Hamilton, évidemment, s'impose et empoche, les 26 points, puisque Perez a réussi à décrocher le point du meilleur tour dans le tout dernier tour. Donc, il était parti avec 21 points de retard sur Verstappen. Il est ce soir à 14 points à 3 grands prix de la fin de la saison. Ce sera vraiment palpitant jusqu'au bout. Hein.
Benoît Lallemand.
Oui, Fred, bonsoir. On a l'impression que plus il est dans la difficulté ou dans l'adversité, meilleur Hamilton est. Et ça promet pour les trois derniers grands prix.
Ça promet parce que au Qatar, la semaine prochaine, c'est un circuit que personne ne connaît parce que c'est un circuit qui était uniquement dédié à la moto, le circuit de Losail. Là, ça va être la première fois que la Formule 1 va là-bas. Donc, il y a des inconnus à la fois chez Red Bull et chez Mercedes. Mais la pression, elle est aujourd'hui sur Red Bull parce qu'ils savent que Mercedes revient très fort. Ils savent que Hamilton, il a un moteur neuf et que ça va aller très vite. Et Verstappen, c'est lui qui va avoir la pression parce que il était toujours le suiveur. Verstappen était toujours dans la combativité, mais là il va falloir qu'il défende. Et on l'a vu là sur ce Grand Prix, il n'a rien pu faire. D'ailleurs, il vient de le dire là dans ses premiers propos, il n'a rien pu faire face à la Mercedes qui était beaucoup plus rapide.
Merci beaucoup, Frédéric Veil. On se retrouve bientôt. pour bah, hein, trois grands prix restent. Hein.
Trois grands prix, Qatar 21 novembre, Arabie Saoudite le 5 décembre et Abu Dhabi le 12 décembre. Je parie sur un couronnement le 12 décembre. À mon avis, on ne l'aura pas avant. Hein.
Merci beaucoup Fred, bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France,
Isabelle Langer.
Évidemment, l'histoire de notre sport est une motivation pour moi. C'est tous les jours un objectif de faire tous les records avec tous les résultats que je fais sur les tours professionnels.
Novak Djokovic veut marquer l'histoire du tennis. C'était la semaine dernière au tournoi Rolex Paris Masters. Il disait vouloir gagner tous les records, à défaut d'ailleurs d'avoir l'amour du public, qui lui est plutôt réservé à Nadal et Federer. Bonsoir Céline Brac.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Odoxa et cette semaine, vous avez posé la question pour Kenéo RTL. Qui est le GOAT le plus grand de tous les temps?
Mais oui, on a posé des questions pour savoir qui étaient les stars du public en termes de popularité, puis aussi en termes de carrière. Et c'est vrai que Djokovic est clairvoyant, il le dit depuis un petit moment, tant que ses rivaux sont sur le circuit, ce sera difficile pour lui. Je confirme, puisque ce que l'on voit, c'est que en popularité, c'est-à-dire quel joueur préférez-vous, eh bien, on a Nadal qui est très clairement le préféré des Français. Il y a certainement un effet Roland-Garros. Et Federer est le chouchou de ceux qui sont les amateurs de tennis, c'est-à-dire ceux qui suivent, qui aiment le tennis. Et
donc
quand on pose la question...
Oui, moi je suis un fan de Federer.
Ah oui. Et quand on demande qui a la plus belle carrière, là, Nadal et Federer sont à égalité quand on se réfère à l'échantillon représentatif de Français. Et Federer est largement devant auprès des amateurs, c'est-à-dire 49% pour Federer, 31% cite Nadal, et loin derrière Djokovic, 20%. Donc on voit vraiment qu'il y a Federer et Nadal, et puis quand même loin derrière Djokovic.
Dans les caractéristiques, en revanche, ça s'équilibre un petit peu, notamment sur la polyvalence entre Federer et Djokovic.
Oui, c'est le seul point
où Djoko arrive à égaler.
Finalement, Djokovic rattrape les autres. Alors, cette fois-ci, Nadal est loin derrière, mais Federer et Djokovic sont cités à égalité. Parce que sur les autres qualités, elles sont toujours prêtées soit à l'un, soit à l'autre. C'est-à-dire que, aux deux autres, je veux dire.
Oui.
C'est-à-dire, Rafael Nadal est vu comme le plus combatif, Federer est vu comme le plus technique, qui a la plus grande technicité. Et sur la proximité du public, bon, bah là, Federer fait le trou, puisque surtout auprès des amateurs de tennis, on a 50% des Français amateurs de tennis qui nous citent Federer. Et puis derrière, 26% Nadal, 22% Djokovic.
Benoît Lallemand, c'est pas très surprenant finalement. C'est bien ce qu'on voit quand on assiste à des matchs de tennis sur l'emballement du public, sur ce que les uns et les autres préfèrent.
Oui, c'est pas très surprenant. Alors pour Federer, on peut citer l'élégance, un peu la classe, la technique. Et puis il a été le premier en fait. Il a été le premier à réaliser cette forme d'expo. Et quand on est le premier, on a toujours un petit avantage auprès du public. Après Nadal, comme le disait Céline, il y a évidemment un effet Roland-Garros, un effet terre battue.
On est en France, c'est vrai.
Exactement. Et puis Djoko. Sans doute, il a du mal à se faire aimer, il en fait peut-être un peu trop. On voit bien aussi, et quand on s'intéresse un peu au tennis, on sait que ni Federer ni Nadal n'apprécient trop Djoko finalement. Donc voilà, on aime bien un peu le détester. Et puis après, on préfère se chamailler entre amateurs de Nadal et amateurs de Federer.
Son successeur, qui peut succéder à ces trois-là?
Alors là, on a posé une question en prenant les meilleurs joueurs à
l'ATP,
sortant évidemment les trois stars. Et on en a deux qui sont vraiment cités loin devant les autres. C'est un Medvedev et deux Tsitsipas. 29% de citation pour Medvedev, 28% pour Tsitsipas. Et Zverev, qui pourtant est devant Tsitsipas dans le classement ATP, est quand même loin puisqu'il est à 15%. Et puis les autres, après les autres, Berrettini, etc., ouais, sont quand même cités par très peu de monde. Ils ne sont pas encore très connus. Alors,
on est encore en France. Medvedev a gagné Bercy. Il est encore en finale cette année. Il est numéro 2 mondial. Il parle français.
Et il est presque français.
Voilà. Et Tsitsipas était en finale de Roland-Garros. Donc là encore, on a un panel un petit peu qui représente bien les amateurs de tennis en France. Quentin Vasselin, d'ailleurs, le Masters a débuté à Turin et Medvedev a gagné le premier
match. Medvedev a battu le Polonais Urkaz en 3-7, 7-6, 6-3. 6-4. Tout à l'heure, il y a Alexander Zverev qui jouera contre Berrettini à 21h. Le Master, c'est les 8 meilleurs joueurs de la, de la saison.
C'est le tournoi des maîtres. Voilà,
ça fait bizarre, la photo. D'habitude, il y a toujours un Murray, un Nadal, un Federer qui accompagnent Joko. La Joko est seule sur la photo avec les petits jeunes.
Ah, on voit qu'il trône d'ailleurs.
Oui, ça, ça fait bizarre. On a vieilli.
Il y avait une dernière question qu'on avait voulu poser, Céline, dans ce sondage. C'est qui serait est-ce que Hugo Gaston pourrait être le futur numéro 1 tricolore? Et la réponse est
voilà, on n'a pas pu le tester évidemment encore parmi la relève puisqu'il est encore loin dans le classement ATP. Mais comme c'est vrai qu'il était en quart à Bercy, qu'il a fait sensation face à Thiem à Roland-Garros, ça valait le coup de poser cette question-là. Et les Français y croient puisqu'ils sont 77% à nous dire oui. Hugo Gaston est le futur numéro 1 tricolore. Donc on voit très bien là que les Français attendent que ces belles performances en appellent d'autres encore plus belles à l'avenir.
Je vous sens pas convaincu, Benoît.
Ah si, si, ben, il va être numéro 1 tricolore, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Il va être numéro 1 lui-même, quoi, en fait. Hein. J'exagère un peu.
Il y a Humbert qui va être plus.
Oui, mais bon. Enfin, franchement, là, on est très, très loin. On parle de Federer, Nadal, Djokovic et puis de Gaston.
Et c'est là qu'on va se rendre compte que nos quatre, ceux qu'on avait surnommés les mousquetaires, nous ont quand même bien fait vivre pendant plus de 15 ans.
Oui, bien sûr, ils nous ont fait espérer, puis ils nous ont fait rêver un petit peu, ils nous ont déçus. Après, voilà, franchement, je pense que le tennis français doit se poser des bonnes questions, parce que c'est un peu triste.
On est dans le trou.
Merci beaucoup, Céline Braque. Bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
Restez avec nous après la pub. Steven Dacosta, le champion olympique de karaté, est notre invité. Ça va frapper fort.
RTL, on refait le sport
avec le Parisien, aujourd'hui en France.
On refait le sport sur RTL.
Avec le Parisien, aujourd'hui en France,
Isabelle Langer.
C'est l'un des héros des Jeux Olympiques de Tokyo, médaillé d'or en karaté. C'est un plaisir de le recevoir ce soir. Bonsoir Steven Dacosta.
Bonsoir, bonsoir, plaisir partagé.
Comment ça va Steven?
Bah ça va, hein, un peu fatigué mais ça va.
La préparation, parce qu'il faut le dire, hein, vous êtes à Dubaï. La semaine prochaine, vous avez un autre moment phare de votre saison. Les championnats du monde, un challenge à relever et pas des moindres, hein, puisque vous devez défendre votre titre.
Ouais, bien sûr, après c'est des conditions particulières parce que je sors des Jeux avec une médaille d'or. Et la médaille d'or, elle engendre pas mal de sollicitations et d'événements et qui fait que j'ai repris l'entraînement quand même récemment et c'est pas la prépa que j'aurais aimé, mais après bien sûr je suis là, donc il faut essayer de gagner.
Benoît Lallemand.
Oui, bonsoir Steven, comment on fait justement pour se remobiliser, se remotiver après avoir vécu une émotion si forte?
Je vais pas mentir, c'est dur, hein. Après, c'est pas que la motivation. Au début, c'était dur de s'y remettre, c'est sûr. C'est de reprendre une grosse rigueur au niveau des prépas, etc. C'est compliqué. Mais le plus dur, c'est vraiment avoir le temps, en fait. Parce que j'étais énormément sur Paris et dans plein d'autres endroits, en fait. Et ça fait que, des fois, je m'entraînais 2 jours. Après, je m'entraînais pas 4 jours. Je reprenais 2 jours. Après, j'avais des petits pépins parce qu'il y a les retombées des jeux, quoi.
La page JO, justement, est-ce qu'elle est définitivement tournée? Est-ce que vous avez fait une croix sur le fait que l'avenir olympique du karaté s'est arrêté et a commencé et s'est arrêté à Tokyo?
Cette croix, je l'ai fait il y a quand même un moment. Hein. Après, qui ne tente rien n'a rien. Donc forcément, c'est un combat que j'ai mené et que je continue de mener. Après, comme je l'ai dit depuis le début, en fait, hein, j'ai pas comment dire. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de pouvoir changer les choses, mais au moins, je tente.
Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans la manière dont ça s'est passé? Et vous avez tenté, vous n'avez pas réussi, mais c'est quoi le regret principal dans cette histoire?
La chute un peu du karaté, enfin pas la chute, parce que on vivait sans les Jeux et on continuera à vivre sans les Jeux, mais le retour au placard du karaté plutôt, et c'est dommage parce que je pense que c'est un sport qui le mérite entièrement. Et malheureusement, les raisons pour lesquelles on n'est plus sport olympique, et justement, c'est pas des raisons sportives. Donc c'est un peu amer.
Est-ce que vous en voulez à des gens?
Bien sûr, j'en veux à beaucoup de monde. Mais après, il n'y a rien de personnel. C'est juste que forcément, quand on prend des décisions, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais encore, quand elles sont justifiées. Bon, après, là, pour moi, ça reste une décision qui est pas fondée et malheureusement qui est sans raison.
Sur notre antenne, Tony Estanguet, lors du J-1000 des Jeux de Paris 2024, disait que vous aviez discuté ensemble, qu'il comprenait votre combat. Est-ce que vous lui en voulez quand même un petit peu de ne pas avoir fait plus pression pour que le karaté reste au programme olympique de Paris?
Bien sûr, je lui en veux parce que, en soi, je pense pas et je suis même sûr que c'est pas lui le décisionnaire au final. Mais.
Oui, il a expliqué sur notre antenne que le CIO avait le dernier mot.
Voilà. Et je pense qu'il aurait pu se battre pour nous, par contre. Le fait de rien faire, c'est pour ça que je l'en veux.
Le ministère vous a soutenu ?
Et toujours d'actualité.
Est-ce que vous espérez que la donne puisse changer ? Alors, peut-être pas malheureusement pour Paris, mais pour Los Angeles et après ?
Ouais, je le souhaite pour le sport. Ça aurait été beau que ce soit à Paris, parce que forcément, les jeux à domicile, c'est incroyable. Les jeux tout court, c'est incroyable. Mais alors, en plus, en France, ça doit être énorme. Mais... Je sais pas si c'est possible que ça re-rentre derrière, parce que les prochaines destinations des JO, c'est pas forcément des nations fortes. Et peut-être que eux, ils feront pas comme nous et ils mettront pas des sports qui, enfin, en tout cas, ils mettront des sports qui leur amèneront énormément de médailles. Donc, je suis pas sûr qu'à Los Angeles, ils proposent le karaté.
Quentin Vasselin.
Et Steven, maintenant qu'il y a plus cette échéance de Paris 2024, vous avez déjà gagné le titre olympique, le titre mondial. Qu'est-ce que vous espérez encore dans votre sport à 24 ans seulement, on le rappelle ?
Là, les mondes, hein, je vais essayer de gagner. Comme toutes les compétitions, j'y vais pas pour perdre forcément. Après, là, c'est vrai que c'est un peu prématuré. Je peux pas mentir, c'est vrai que les Jeux, là, c'est beaucoup trop tôt. Les championnats du monde, 3 mois après les Jeux, c'est compliqué. Mais après, je suis là, donc forcément, je ferai tout pour. Après, même si demain ça se passe mal, les Jeux, on me l'enlèvera pas. Et c'était l'objectif de ma saison, même l'objectif de ma carrière. Donc, il est réalisé maintenant. C'est un peu tôt, mais bon, je suis là, donc on va essayer de faire de belles choses. Après, ce sera ça. Je pense que si on était encore à Paris 2024, j'aurais peut-être fait abstraction sur ces mondes-là.
Vous y allez avec vos frangins, Logan et Jesse, et ça doit vous faire du bien.
Ouais, bien sûr, c'est mieux que d'être seul. Hein. Donc ouais, c'est sûr que les Jeux, c'était des conditions particulières, mais ouais, là, après, c'est le retour à la normale, à l'équipe de France complète, mais c'est bien.
Est-ce que les sponsors sont quand même venus vers vous ? Est-ce que vous avez décroché des nouveaux contrats, malgré le fait que le karaté ne sera pas olympique en 2024 ?
Bah justement, c'est un peu compliqué, parce que déjà avec les sponsors olympiques, c'est compliqué déjà. Moi, actuellement, j'ai toujours visa, mais on est en discussion, ça reste quand même compliqué. Et après, oui, j'ai eu des propositions sur d'autres choses, bon, qui sont pas encore signées, ou il y a rien d'officiel, mais bon, c'est pas non plus la bagarre. Hein.
Quentin ?
Et malgré tout, vous avez touché la prime de 65 000 euros grâce à votre médaille d'or, la prime du gouvernement. Pour un sport comme le karaté, pour un sportif comme vous, j'imagine que cette manne financière est quand même une belle récompense pour tous les efforts que vous avez dû faire pour les obtenir.
Bah quand ça tombe d'un coup, oui, bien sûr, c'est une très très grosse somme. Hein.
Elle est sur votre compte là ?
Ouais, ouais. Après.
Vous vous êtes permis quand même des trucs, racontez-nous.
Ouais, je me suis acheté une voiture, mais après. Ah. Bon, après, les impôts sont pas encore passés. Hein. Non, mais oui, c'est sûr, c'est une très grosse somme. Après, si on l'étale sur 20 ans de karaté, ça ne fait pas tant que ça, finalement.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Steven, au championnat du monde et pour la suite ?
Bah, de l'or, hein, comme toujours.
Bah, on se reparle dans une semaine, alors.
Ah, j'espère.
Bon courage pour ces championnats du monde, en
Merci
tous les cas.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Benoît Lallemand, que pourra-t-on lire demain dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France ?
Un peu de rugby, un peu de Mbappé, puisque on reste quand même ébloui par ce qu'il a fait hier. Et puis, il y a ce soir un Lyon-PSG qui va valoir très très cher.
Chez les filles. Dans un instant, vous retrouvez les copains de RTL Foot avec une interview exclusive de Didier Deschamps au lendemain de la qualification justement des Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar.
RTL, on refait le sport
avec le Parisien aujourd'hui en France.